France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Samedi matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio donnait son discours à la conférence sur la sécurité de Munich, semblant tenter de renouer avec l'Europe. Mais l'apaisement supposé divise encore les Européens, tandis que l'Allemagne veut croire à la réconciliation transatlantique. Emmanuel Macron, lui, a renouvelé les appels à plus de souveraineté européenne et donc d'indépendance de l'allié américain. Alors, comment l'Europe doit-elle se positionner? Le vieux continent peut-il rompre avec la protection américaine? Quels équilibres internationaux après la conférence de Munich sur la sécurité qui vient tout juste de s'achever? Bonsoir Thomas Gommard.
Bonsoir Quentin Laffay.
Vous êtes de retour de Munich justement, vous êtes historien des relations internationales, directeur de l'Institut français des relations internationales. Je cite cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier et que vous signez, Qui contrôle qui? On y reviendra assez largement. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
L'Amérique a été fondée il y a 250 ans, mais ses racines plongent ici, sur ce continent, bien des siècles plus tôt. L'homme qui a fondé et bâti la nation où je suis né est arrivé sur nos rivages, porteur de souvenirs, de traditions et de la foi chrétienne de ses ancêtres comme héritage sacré. Lien indissoluble entre l'ancien monde et le nouveau. Nous appartenons à une seule civilisation, la civilisation occidentale. Nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit. Nous voulons des alliés capables de se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient enchaînés par la culpabilité et la honte. Nous voulons des alliés fiers de leur culture.
Extrait, Thomas Gommard, du discours du secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Qu'a-t-il cherché à faire samedi matin? Un pas vers nous, un pas vers la réconciliation? C'est flagrant le hiatus qui existe entre ce discours qui a été prononcé samedi et celui de l'an dernier par J.D. Vance.
Moi, j'y vois un écho. Je ne vois pas de contradiction entre les deux discours, si ce n'est sur le style. C'est-à-dire que J.D. Vance, en février 2025, et je commence d'ailleurs mon livre par cet épisode, a glacé la salle. Et Marco Rubio, en février 2026, a eu droit à une standing ovation, parce qu'il a dit la même chose, mais de manière beaucoup plus aimable. Ce qui montre peut-être le caractère incorrigible des Européens, ou de certains Européens, dès qu'il s'agit des relations transatlantiques. Mais sur le fond, le message est le même, et il est d'ailleurs très en phase avec le document publié par l'administration américaine au mois de novembre, la stratégie nationale de sécurité, qui parle d'un effacement civilisationnel de l'Europe. Au fond, ce que nous disent J.D. Vance et Marco Rubio, alors il est important de distinguer aussi les deux discours, parce que les deux hommes sont en concurrence, en fait, pour l'après-Trump. Mais ce qu'ils nous disent, ce qu'ils disent aux Européens, c'est « nous allons vous sauver de vous-même ».
Et dans le fond, est-ce qu'on ne peut pas voir non plus une dimension plus transatlantique dans le discours de Marco Rubio? On sait qu'il n'a pas le même rapport à l'Europe que J.D. Vance lorsqu'il parle de civilisation commune, lorsqu'il insiste sur le fait que nous sommes alliés. Ce sont peut-être des détails de forme, mais en diplomatie, ça veut dire beaucoup la forme.
Encore une fois, moi je vois plus de convergence que de divergence entre les deux discours. Le terme de civilisation se retrouvait également dans le discours de J.D. Vance l'année dernière. Ce qui est intéressant, effectivement, peut-être, c'est le momentum, c'est-à-dire que la conférence de Munich sur la sécurité est le temple du transatlantisme. Et c'est une conférence qui s'est créée dans les années 60 pour accompagner l'intégration de la République fédérale d'Allemagne à l'OTAN. Et progressivement, cette conférence est montée en puissance pour devenir, au fond, le lieu d'expression de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Bon. Donc le fait d'y intervenir très, très régulièrement, quand vous allez à Munich, vous êtes frappé du nombre de congressmen ou congresswomen américains qui participent. Vous avez les grands représentants de l'industrie d'armement américain, leurs équivalents européens. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, je dirais que Marco Rubio, pour moi, dit la même chose que J.D. Vance dans un moment effectivement très particulier de la relation transatlantique qui est en train de de mon point de vue, de changer de nature.
Alors revenons justement sur cette histoire. Il y a un an, au moment du discours de J.D. Vance, et c'est par là que vous commencez votre ouvrage, Thomas Gomard, ce discours qui a stupéfait les Européens. Est-ce qu'on peut s'étonner tout de même du fait que ces élites européennes aient été si stupéfaites? Ne pouvait-on pas s'attendre à l'idée selon laquelle Donald Trump, l'aéropage politique qui l'entoure, in fine, se détournerait de l'Europe occidentale?
Vous savez, c'est toujours très difficile pour un esprit humain de se préparer à l'inéluctable ou se préparer à des choses très désagréables. C'est-à-dire que on a toujours tendance à faire preuve un peu d'inconséquence, à se dire ça n'arrivera pas. Or, effectivement, les signaux du changement de trajectoire des États-Unis, et je pense, c'est le terme que j'utilise dans le livre, du schisme transatlantique que nous sommes en train de vivre, étaient antérieurs, d'une certaine manière, à Donald Trump. Ils étaient antérieurs par la demande très répétée des États-Unis, faite aux Européens, pour qu'ils partagent le fardeau militaire, notamment dans le cadre de l'OTAN, ce que les Européens, en particulier les Allemands, se sont refusés à faire pendant plusieurs décennies. C'est, le fond de l'affaire est là. C'est qu'en réalité, les Européens aujourd'hui sont dans une situation où ils payent comptant le prix d'un désarmement structurel qui a commencé au début des années 70 et contre lequel les États-Unis les avaient mis en garde. Mais les Européens penser jusqu'à peu de temps, en fait, qu'à la fin, il y a toujours la cavalerie américaine. Et ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est qu'il n'y a plus forcément de cavalerie américaine au moment d'une résurgence de la Russie sur le continent européen.
Barack Obama avait-il d'ores et déjà amorcé ce tournant lorsqu'il disait vouloir se tourner un peu plus, un peu mieux vers l'Indo-Pacifique, regarder un peu moins en retour vers l'Atlantique et vers l'Europe de l'Ouest?
Oui, très certainement. Mais avant Barack Obama, Bush fils également avait s'était exprimé dans ce sens. Et même quand vous revenez aux années, à la fin des années 50, le général Eisenhower, président à ce moment-là, indiquait aussi aux Européens la nécessité pour eux de prendre davantage en charge leur défense et leur sécurité, avec un effet très paradoxal et probablement qu'on peut mettre sur le compte ou de l'hypocrisie ou de la duplicité, c'est qu'en même temps, il faut faire ça en s'armant aux États-Unis. C'est-à-dire que l'OTAN, c'est aussi un catalogue de systèmes d'armes, de procédures qui placent les Européens, je dirais, by design, presque par construction, dans une situation asymétrique et de dépendance à l'égard de la technologie militaire américaine.
Donc, si je vous suis, Thomas Gomard, le sursaut européen devait nécessairement dépendre d'un discours presque violent de la part des États-Unis, de la part de J.D. Vance, en l'occurrence, c'est de cela dont nous avions besoin pour réagir, pour penser notre construction européenne par nous-mêmes, et notamment en matière de militaire et de souveraineté.
Vous avez des prises de conscience qui ont été, qui sont anciennes, c'est-à-dire qu'un pays comme la France commence à réarmer, à comprendre que les choses évoluent très mal à partir de 2015-2017. En Allemagne, ça viendra à partir de 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Si vous voulez, le fond de la culture stratégique française, c'est le constat que les Américains, n'engageront jamais leurs intérêts vitaux pour l'Europe. C'est pour ça qu'il y a la dissuasion nucléaire, et c'est pour ça que la 4e République et évidemment la 5e République avec le général de Gaulle se sont lancés dans ce projet nucléaire. Donc c'est très structurel chez nous. En revanche, chez les autres pays européens, ils ne conçoivent leur défense et leur sécurité que dans le cadre strictement otanien. Et ont cru que, au fond, on pouvait dépenser très peu pour sa défense et sa sécurité en étant toujours garanti, encore une fois, du soutien américain. Mais on est piqué au vif aujourd'hui par ces discours de J.D. Vance et de Marco Rubio. Mais en réalité, le constat est fait depuis, depuis plusieurs décennies. La mise en œuvre, en revanche, est plus récente parce que il y a un sentiment d'urgence avec une Europe qui est sous une triple pression aujourd'hui. Une pression commerciale et technologique des États-Unis, une pression industrielle et technologique venant de Chine, et puis une pression militaire via l'Ukraine venant de Russie.
Je reviens un instant sur cette singularité stratégique française que vous décriviez, ce rapport particulier que nous avions, une forme de lucidité, si je puis dire, quant aux intérêts fondamentaux des États-Unis. Est-ce cela qui permet d'expliquer peut-être la différente nature des discours qui ont été tenus ce week-end par Emmanuel Macron d'un côté et le chancelier allemand de l'autre, Friedrich Merz?
Très certainement. Vous savez, aujourd'hui, vu l'état de perte de crédibilité de la France sur le plan international au regard de son incapacité à la réforme, de son niveau de dette et de l'orientation politique qu'elle est en train de prendre.
L'impact est fondamental dans ce domaine ?
Ah oui. Vous savez, toutes les questions que j'ai pu avoir à Munich portaient sur qu'est-ce qui va se passer en France en 2027, avec un sentiment de vertige en réalité par rapport à ce que la France a incarné comme capacité d'entraînement en Europe. Donc il y a une perte de crédibilité qui est directement liée à notre incapacité à la réforme et à notre état économique et politique. Et la seule chose qui est vue comme encore très sérieux de l'étranger, c'est le nucléaire et les forces armées françaises en réalité, qu'on a tendance du coup à surjouer. Et le président de la République a fait un discours en février 2020 qui a été un discours très important. Il a annoncé à Munich son prochain discours sur le nucléaire avec en fait la dimension européenne qui n'est pas nouvelle mais sur laquelle il cherche à capitaliser. Et effectivement, de ce point de vue-là, le discours tenu par le chancelier Merz était assez complémentaire. C'est-à-dire que la France et l'Allemagne qui entretiennent des rapports toujours difficiles. C'est toujours difficile, la relation franco-allemande. Mais je trouve, dans leur expression à Munich, ont tenu un discours complémentaire sur la nécessité pour les Européens de gagner en autonomie et d'apprendre à penser le monde sans la cavalerie américaine.
Complémentaire ou bien l'Allemagne a-t-elle aussi, dans le fond, du mal à couper le cordon, à être lucide sur la fin, la nécessité d'achever peut-être ce lien fusionnel qui existait jusqu'alors, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest?
Alors c'est beaucoup plus difficile pour les Allemands, pour les raisons que vous venez d'indiquer, que pour les Français, aucun doute là-dessus. Après, il y a un autre élément, c'est que l'Allemagne, en fait, est la puissance dominante désormais en Europe. C'est-à-dire que le numéro un en Europe, économiquement, politiquement, dans la cohérence entre le politique et l'économique, c'est l'Allemagne. Et que vous avez un décrochage français qui s'explique par, encore une fois, les choix, notamment économiques, que nous avons faits.
Du point de vue, justement, stratégique, militaire, du point de vue aussi du rapport des Européens à l'idée même de puissance, est-ce que, depuis un an, l'Europe occidentale a mené une forme de révolution intellectuelle ou bien elle en est encore extrêmement loin ?
Non, vous avez une prise de conscience qui est indiscutable et qui est en même temps paradoxale dans son expression. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, Marco Rubio a été ovationné après son discours, alors que son contenu m'a rappelé celui de J.D. Vance. Donc c'est très difficile, si vous voulez, pour les Européens. Néanmoins, je pense que ce que les Européens ont compris, même si ça a des implications encore très, très lourdes à accepter, c'est qu'ils vont devoir, à terme, gérer la question russe de plus en plus par eux-mêmes. Et qu'ils sont dans une situation délicate parce que l'argument américain qui consiste à dire comment se fait-il que 450 millions d'Européens riches compte sur 380 millions d'Américains pour se protéger contre 140 millions de Russes vieillissants, est un argument extrêmement puissant en réalité.
Je voudrais vous ramener en 2007, lors d'un discours du président russe Vladimir Poutine, lors d'une autre conférence de Munich. Il expliquait qu'il considérait que le modèle unipolaire était non seulement inacceptable, mais également impossible dans le monde actuel.
Je considère que le modèle unipolaire est non seulement inacceptable, mais aussi impossible dans le monde actuel. Et ce, non seulement parce que si un leadership unique existait dans le monde d'aujourd'hui, les ressources militaires, politiques et économiques seraient insuffisantes. Plus important encore, ce modèle est fondamentalement erroné, car il ne repose et ne saurait reposer sur aucun fondement moral pour la civilisation moderne. Parallèlement, ce qui se produit actuellement dans le monde, et nous commençons tout juste à l'aborder, est une tentative d'introduire précisément ce concept dans les relations internationales, celui d'un monde unipolaire. Et avec quel résultat ? Les actions unilatérales et souvent illégitimes n'ont résolu aucun problème. Pire encore, elles ont engendré de nouvelles tragédies humaines et créé de nouveaux foyers de tension.
2007, Thomas Gomard, là aussi les Européens avaient été frappés de stupeur.
Oui, et c'est un discours qu'on On relie évidemment aussi à la lumière de la changement de trajectoire de la Russie avec ensuite l'intervention en Géorgie 2008 et puis surtout l'intervention en Syrie et l'annexion de la Crimée 2014 qui déclenche la guerre d'Ukraine dans laquelle l'on est. Si vous voyez, la particularité de ce discours, c'est que c'est un discours très important aussi sur le moment en Russie, parce que c'est le moment où la Russie est capable de produire un contre-discours idéologique. La Russie se place à ce moment-là à l'avant-garde de la révolution conservatrice, en réalité, qui va inspirer un certain nombre de forces politiques en Europe, et en particulier désormais aux États-Unis. Et ce que Vladimir Poutine théorise assez vite, hein, avec des gens comme Surkov, notamment son conseiller de l'époque, c'est que à la promotion de la démocratie portée par les pays de l'OTAN, notamment dans le prolongement de l'élargissement de 2004, la Russie répond par la démocratie souveraine. Cette idée sur laquelle, au fond, c'est un état civilisation et que ce qui importe, c'est d'être maître chez soi. Et va construire ensuite un contre-discours, analysant assez bien politiquement d'ailleurs la faiblesse du projet européen, dans la mesure où, vous vous en souvenez, je pense que d'ailleurs ça explique aussi beaucoup de notre situation politique actuelle, le traité européen de 2005 est rejeté par la France et par les Pays-Bas, et ensuite donne lieu au traité de Lisbonne, qui d'une certaine manière passe sur le vote. Qui a eu lieu. Bon, ça c'est très bien compris par la Russie, qui au fond fait une analyse de perte de viabilité du projet européen, qui sera confirmée par le Brexit, et cette contre-révolution, cette révolution conservatrice, évidemment, trouve un effet d'accélération avec Donald Trump entre 2016 et 2020, et surtout la réélection de Donald Trump, qui est une aubaine pour la Russie de Vladimir Poutine. Et dans le même temps, eh bien, la Russie fait un choix assez conforme à son histoire impériale et soviétique. C'est le choix de la guerre, c'est-à-dire que le régime de Poutine est dans une situation un régime pour lequel la guerre est consubstantielle, que ce soit en Tchétchénie, lorsqu'il arrive au pouvoir, deuxième guerre de Tchétchénie, j'ai mentionné la Géorgie, et puis surtout de créer une situation au sein de la société russe qui aboutit fondamentalement à la continuation de la Grande Guerre patriotique par l'offensive en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie a fait plus de temps la guerre à l'Ukraine depuis février 2022 que l'URSS n'a fait la guerre à l'Allemagne nazie.
Pourquoi la stupeur qui traverse le public européen en 2007 d'ores et déjà ne se traduit-elle pas par une réaction, par une forme d'action? On pouvait déjà sentir dans ce discours les volontés impériales, l'impérialisme d'ailleurs un concept totalement absent de la cartographie mentale des Européens, tout comme l'idée de puissance. Encore une fois, pourquoi un adversaire qui vient face à nous expliquer avec clarté ses intentions et ses volontés ne crée pas une forme de réaction côté européen?
Je vous répondrai de la même manière que je vous ai répondu tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas voir certaines choses et que la manière dont la Russie a été lue par les élites politiques et économiques en Europe, en particulier en Allemagne et en France, relève de l'erreur d'analyse en partie volontaire. Parce qu'en fait, quand vous analysez la Russie en France, vous pensez aux États-Unis. Mmh. Et donc, vous avez une sorte de vision sur laquelle la relation franco-russe est une manière de favoriser un monde multipolaire, comprendre un monde qui serait moins américain, et donc, de ce point de vue-là, qui faciliterait les positions diplomatiques françaises, un peu dans la lecture, à mon avis, erronée d'ailleurs, qui est faite de l'héritage gaulliste. Or, la situation dans laquelle on est, que j'essaie d'indiquer dans le livre, c'est que le duel, il est entre Volodymyr Zelensky et Poutine, et surtout, il est perturbé par deux choses. Le degré de résistance de l'Ukraine, qui est tout à fait inattendu. Voilà, vous avez encore des gens en France qui ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens résistent. En fait, ils résistent parce qu'ils ont très bien compris qu'ils allaient être passés par le fil de l'épée et que la finalité du projet de Vladimir Poutine, c'est d'asservir l'Ukraine. Et puis, la deuxième grande rupture, c'est la collusion idéologique désormais qui existe entre la Maison Blanche et le Kremlin et qui fait que une part de l'argumentaire russe est repris de manière explicite par Donald Trump.
Le livre, justement, Thomas Gomard, Qui contrôle qui, aux éditions Talendier, j'en cite un extrait. Chaque puissance et son rival auraient pu être soumis à la fameuse question de Lénine. Qui l'emporte? Car à partir du moment où tout est rapport de force, il y a forcément un perdant et un gagnant. Cependant, la politique internationale est un processus continu, régi par des interdépendances sans cesse plus complexes. Il ne fige jamais dans cette optique. La question de Lénine mérite d'être ainsi reformulée. Qui contrôle qui ? Fin de citation. Pourquoi reformuler cette question, justement, avant d'y répondre ?
Alors, en russe, c'est Kto Kavo, qui m'a inspiré. C'est ce que vous dites qu'on fait un bras de fer, en fait. Qui va l'emporter ? Et en fait, je la reformule parce que je pense que c'est trop définitif, d'une certaine manière, et que dans un système effectivement interdépendant, fluide, complexe...
Trop définitif au sens où on ne l'emporte jamais ?
Voilà. On ne l'emporte jamais. Regardez où est la Russie en 1997. En 98, elle fait défaut. Voilà. Regardez où elle est en 2008, regardez où elle est en 2018, par exemple. Et regardez où elle sera en 2028, je pense que ça va être une trajectoire terrible pour la Russie. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que Vladimir Poutine consomme ses hommes en Ukraine comme il consomme du petit bois. Il fait la guerre. Quand on compare l'efficacité militaire de la Russie à l'efficacité militaire d'Israël, on voit la très grande différence, en fait, et l'effet produit. Militairement. Bon. Donc ça, c'est le qui contrôle qui, c'est au fond une manière de répondre à la complexité. Et ensuite, si vous voulez, je pense qu'on est dans de nouvelles formes de léninisme. En fait, pourquoi je suis arrivé à Lénine ? Je suis arrivé à Lénine par Benjamin Constant, paradoxalement, en relisant De l'usurpation. Vous avez cette formule qui m'a aidé à construire le livre, c'est-à-dire que la guerre et le commerce sont deux manières d'obtenir ce que l'on désire. Et Benjamin Constant, c'est le penseur du libéralisme politique, pour lequel, en fait, le sujet, c'est de tenir le tyran à distance. Et Lénine, un siècle plus tard, son projet, c'est de détruire l'adversaire, au nom, grâce à la discipline de parti. Et je pense qu'on ne voit pas à quel point le léninisme reste important. La plus formidable organisation léniniste est celle qui est en train de prendre le contrôle. C'est le Parti communiste chinois. Et quand vous relisez les déclarations de Xi, ces références à Lénine sont fréquentes. Et puis l'autre aspect, c'est que j'ai découvert en lisant un peu par hasard un livre de Dominique Collat que vous avez une statuaire de Lénine qui réapparaît à la fois en Russie, en Biélorussie et dans le Donbass, territoire ukrainien conquis par la Russie de Vladimir Poutine. Alors même qu'il entretient un rapport très critique à l'égard de Lénine, considérant que l'Ukraine, précisément, est une construction de Lénine, qu'il a été l'architecte de l'Ukraine en 1917 et qu'il n'aurait pas dû faire ça fondamentalement. Mais donc je pense que cette idée de ce rapport, si vous voulez, entre Benjamin Constant et Lénine, me fait dire que le sujet du rapport entre libéralisme et léninisme reste un sous-jacent, d'une part, et d'autre part, je pense que la grande question pour les Européens, c'est est-ce qu'au fond, il faut tenir le tyran à distance, ou est-ce qu'il faut considérer que la politique, c'est de détruire l'adversaire ?
Justement, Thomas Gomard, qu'est-ce que cela nous apporte de nous poser cette question ? Qui contrôle qui ? Quelle est la valeur heuristique de ce questionnement lorsqu'on regarde le paysage international contemporain et même, j'allais dire, nos relations avec la Russie, la Chine, les États-Unis.
D'abord, c'est de comprendre que un système de contrôle, ça se joue sur le plan politique, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel.
C'est-à-dire multidimensionnel.
Voilà, il y a différents points et que c'est plutôt l'aptitude d'un acteur, alors d'un État, mais pas simplement. C'est-à-dire que vous avez des formes de contrôle. Voilà, Peter Thiel, par exemple, le patron de Palantir le créateur de Palantir et de PayPal, auquel je consacre une partie du dernier chapitre sur la tension entre le Vatican et la Silicon Valley, exerce très fortement des formes de contrôle parce que il a une prétention philosophique, il a des moyens financiers considérables et il a une maîtrise des vecteurs technologiques qui font que quand il parle, on écoute. Donc il exerce une forme de contrôle. Et vous pouvez mettre, je ne sais pas, des milliers d'intellectuels européens en face, il y a un déséquilibre qui leur est fondamentalement défavorable. Donc c'est aussi ça en fait, cette idée de contrôle, c'est de bien saisir qu'en réalité, on est dans des situations asymétriques, interdépendante et qu'il faut être du bon côté de la symétrie. Et que ça, c'est un travail permanent où il faut prendre des positions, les tenir, en gagner d'autres. Quand on en perd, essayer de les récupérer par ailleurs. Donc si vous voulez, c'est cette idée de contrôle, c'est une idée, encore une fois, qui est moins définitive et à mon avis plus adaptée à la politique internationale telle qu'elle fonctionne, plutôt que l'idée de qui l'emporte qui est peut-être une idée plus définitive au sens géopolitique du terme.
Des milliers d'intellectuels européens, dans le même temps, il y a un opposant que vous identifiez dans ce même chapitre, c'est le pape actuel, le pape états-unien, qui est peut-être, dites-vous, le premier opposant mondial à cette pensée-là.
En l'espèce, c'était son prédécesseur François, qui d'abord avait réservé un accueil très froid à Donald Trump lors de son premier mandat. Et puis surtout, effectivement, quand on observe la stratégie de prosternation qui a été suivie par les dirigeants européens en janvier 2025, au moment de l'investiture, le pape François envoie cette lettre aux évêques américains en février, dénonçant les déportations, et incarne, de mon point de vue, la seule, pour l'instant, opposition institutionnelle, intellectuelle, morale, d'une certaine manière, à l'administration Trump. Et ça s'est confirmé ensuite parce que je pense qu'on est dans un moment où, avec la personnalité de J.D. Vance, qu'on a déjà mentionné en début de discussion, qui est un catholique converti, se rejoue la dialectique entre le pape et l'empereur. C'est-à-dire que le vice-président des États-Unis a appelé à un futur, on verra, en 2028, à forcer les portes du Vatican. C'est-à-dire qu'il a essayé d'obtenir une forme de reconnaissance de la part de François mourant. Il le voit la veille de sa mort. Je trouve que le choix du pape Léon est un choix très intéressant qu'aucune intelligence artificielle ne pouvait prévoir. On peut pas prévoir le résultat d'un conclave et annonce effectivement le fait que peut-être qu'on va avoir un pape qui va être très critique vis-à-vis des États-Unis comme le pape Jean-Paul l'a été vis-à-vis de l'URSS.
Merci beaucoup Thomas Gomard. Je redonne le titre de votre ouvrage que l'on recommande par ailleurs chaleureusement. Qui contrôle qui? C'est aux éditions Talendier. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Audrey Carme, Rodier Ken, à la réalisation Léa Racine.